Chers amis, soyez les bienvenus chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous allons étudier aujourd'hui un sujet très intéressant et de grand intérêt pour toute l'humanité, vous savez. Nous allons parler en effet de l'alcoolisme. Il est très important que nous étudions ce sujet en profondeur et que surtout nous comprenions toujours mieux ces rares problèmes, ces vices, cette maladie. Il est dans notre monde intérieur et il détruit nos vices et les vices des les personnes que nous disons que nous aimons. Il faut que nous comprenions bien, parce que cette compréhension créative qui sera la base de notre émancipation de cette vie et de beaucoup d'autres vices, qui nous permettra de sortir de ces genres de vie, supprimer ou rejeter violemment les choses, ne les éliminer pas du tout. Parce que les défauts psychologiques reviennent alors avec beaucoup plus de force. Si nous faisons cela, il faut une compréhension créative. Il faut que nous méditions pour pouvoir désenterrer tous ces défauts psychologiques. Dans la mythologie, l'alcoolisme est un démon. Il suffit de voir comment il prend possession de nous lorsque nous buvons, lorsque nous nous enivrons. Comment il prend possession de notre pensée, de nos émotions, de notre personnalité. C'est comme si nous étions possédés, parce que nous faisons des choses sans cesse. Nous nous battons, nous violons, nous tuons, nous causons des accidents. Il n'y a qu'à voir combien de crimes, de suicides, de violences et d'autres faits très négatifs sont perpétués dans le monde à cause de l'alcool. Dans la mythologie, donc, on l'associe à l'étoile alcool, qui se trouve sur la tête de la Méduse, qui fut coupée par Persée. Algol veut dire démon. Oui, c'est ce que cela signifie littéralement. Alcool vient du monde Algol. Dans la mythologie, et Algol veut dire démon. C'est certain. Nous justifions toute notre vie de l'alcool. Nous vivons parce que nous sommes tristes, parce que nous sommes jojo, parce que notre équipe de football a perdu, ou l'équipe de l'esport que nous aimons. Parce qu'elle a gagné. Nous vivons pour fêter le nouvel an. Nous vivons pour l'anniversaire de notre enfant. Nous vivons parce que nous avons réussi des examens. Nous vivons parce que nous sommes admis à l'université. Tout est prétexte à boire de l'alcool. Nous pouvons dire franchement et sans hésiter que c'est un démon. Une entité démoniaque qui se trouve dans notre intérieur. C'est un moi, un ego. Et en disant cela, nous ne nous trompons pas. C'est un démon que nous avons et nous-mêmes créé, un démon qui nous amène à l'enivrement, avec toutes ces terribles conséquences, qui peut nous amener jusqu'au délirium tremens, qui peut nous amener jusqu'à la mort et la folie, sans parler des problèmes que cela peut engendrer dans nos descendants, comme les paralysies par exemple. Vous vous rendez compte, ce n'est pas rien, nous les justifions bien sûr, disant que cela nous rend joyeux durant une fête ou une célébration. Mais êtes-vous sûr que nous avons besoin de boire de l'alcool pour être joyeux, pour être contente, pour passer un bon moment? Nous pouvons être heureux et joyeux sans avoir besoin d'une coupe de bain. Les hommes se sentent être très sombres et très virils lorsqu'ils boivent. Sans compter que de nos jours, la femme n'échappe pas non plus de l'alcool également. Nous faisons vraiment une fausse idée de la virilité et de ce que veut dire être un homme. À notre époque, nous commençons ces vices de l'alcool sur les bancs de l'école. Nous devons nous rendre compte de cela. Nous devons comprendre ces problèmes sans détour. Sans détour. L'alcool a une tendance vibratoire qui désenterre, qui détruit nos cellules. L'alcool transforme chaque cellule de notre corps en quelque chose qui ne convient pas du tout à notre organisme, à notre santé, qui les détruit. Et malgré cela, chers amis, nous les justifions. Nous les justifions par de très nombreux prétextes. Il élimine notre capacité à penser et il vient fortifier ce qu'on appelle la fantaisie. Lorsque nous nous enivrons, même si c'est du sang de la famille, nous déclarons souvent « Oui, bien sûr, je bois de temps en temps, les fins de semaine. » le week-end pour être un peu plus contente. Ou bien dans une fête, mais j'essaie de m'arrêter et je ne tombe pas par terre complètement ivre et bougeant. J'ai le contrôle. Nous disons cela, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons toujours pour justifier ces démons que nous avons nous-mêmes créés, développés et alimentés durant des siècles. Nous ne l'avons pas créé dans cette vie, si. Non, nous le possédons depuis des vies antérieures et nous l'avons fortifié au fur et à mesure de notre existence. Ces démons de l'alcool fortifient beaucoup la fantaisie. Et cette fantaisie développe le fameux organe Kundarti Guador, origine du moi. Pour quelqu'un qui cherche la lumière, la sagesse dans la gnose, s'il vient à s'enivrer, il refait jaillir en lui des égos qu'il a pu être déjà éliminés. Il refait vivre en lui des égos qu'il avait désintégrés, et éliminés par un grand travail sur lui-même. Bien, avec l'alcool, ses défauts psychologiques renaissent, comme le phénix, et ils sont encore plus puissants. L'alcool détruit notre capacité à juger sereinement, c'est-à-dire élimine en nous la capacité de décider les actes de notre vie. Nous perdons notre sens éthique, moral, nous nous sentons supérieurs aux autres. Il nous enlève la liberté. Lorsque nous sommes ivres, nous pouvons être facilement manipulés. Nous sommes très sensibles aux suggestions, quelles qu'elles soient. Lorsque nous sommes alcoolisés, on peut nous dire n'importe quoi. Par exemple, « Sous tes murs, déshabillez-toi, fais ceci ou cela, tu n'es pas capable de faire ça ou ça, pas toi, ne te laissez pas faire, etc. etc. » Et nous obéissons. Et de cette manière, nous perdons notre travail, notre famille, notre santé. L'alcool a les dons de l'ubiquité. Cette don d'ubiquité, c'est celui qu'avait Saint François d'Assise. Il l'avait, oui, il l'avait, mais de façon positive, bien sûr. Mais lorsque nous parlons du démon alcool, de ces vices que nous avons en nous, de ces mois alcooliques qui vivent dans notre intérieur, de ces démons psychologiques, on voit qu'ils sont les dons de l'ubiquité. En effet, nous pouvons voir ces démons chez le pauvre paysan, chez l'ouvrier qui gagne très peu de sa vie malgré un grand et dur travail, et qui peut à peine se nourrir. Il voit pour oublier, pour ne plus se sentir humilié et sous-estimé. Ils boivent parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a bien sûr de l'alcoolisme chez les gens pauvres et désobrés, mais on voit aussi le démon alcool dans les classes moyennes et dans les classes privilégiées. On boit de l'alcool dans ces belles coupées de cristal de baccarat, chez l'homme, chez la femme, chez l'adolescent, chez le vieillard, partout. Le démon alcool se trouve partout, dans tous les milieux. C'est pour cela que l'on dit qu'il y a les dons de l'ubiquité, vous savez. C'est un démon terrible. On le trouve chez les médecins, chez l'ouvrier, chez les paysans, chez la femme, chez l'ingénieur, chez les commerciaux, ce démon est partout, à la fois. Il s'infiltre partout. Il est triste de voir comment le gouvernement veut lutter contre l'alcoolisme et l'ensemble des campagnes, mais qu'en même temps, il se soutient de façon importante avec l'argent des ventes de l'alcool, les impôts. Comment pouvons-nous juger et rejeter la personne qui boit si le gouvernement lui-même favorise l'alcoolisme? Nous devons étudier et voir tous les aspects de l'alcool. Vous avez certainement entendu parler ou lu la Divine Comédie de Dante Alighieri, dans laquelle il parle des 9 siècles dantesques, dans lesquels on entend des cris, des roulements, des grincements des dents et d'autres crises, toutes aussi terribles dans l'abîme. Eh bien, c'est dans ces endroits que nous mène l'alcoolisme. La vibration que nous avons lorsque l'on boit de l'alcool nous fait descendre dans des dimensions inférieures de la nature. dans les infradimensions de la nature. Lorsque nous avons les vibrations de l'alcool, nous nous submergeons dans les dimensions inférieures de la nature. Nous sommes en face avec les siècles dantesques dont nous parle Dante le Florentin dans sa divine comédie. C'est une réalité. Lorsque nous nous enivrons, nous descendons dans les siècles dantesques volontairement. C'est une triste réalité. Le maître Samael nous dit dans son livre « La transformation sociale de l'humanité » ce qui suit. Les dictateurs de tous les temps, les tyrans, n'ignorent pas qu'un peuple qui boit est plus facile à gouverner, à manipuler et à maintenir en esclavage qu'un peuple qui ne boit pas. C'est pour cette raison qu'ils autorisent et ont toujours autorisé toutes les boissons alcoolisées. Rendez-vous compte, chers amis. Il y a de moins en moins d'écoles et plus de boutiques qui vendent de l'alcool. Il y a une école tout près d'ici, mais il y a aussi cette boutique qui vend de l'alcool sur un seul et simple pâté de maison. Où allons-nous arrêter de cette manière? Comment est-il possible que l'on autorise de plus en plus de vendre de l'alcool? Eh bien oui, comme le dit le maître Samael. Les dictateurs de tous les temps, les tyrans, n'ignorent pas qu'il est plus facile de gouverner et de maintenir en esclavage un peuple lorsqu'il boit qu'un peuple abstinent. C'est beaucoup plus facile et c'est la réalité. Nous tombons dans les rives de l'alcool comme des imbéciles et nous n'avons plus la possibilité de réfléchir et de penser. Et alors, ce qui est important, ce qui a été important pour nous durant toute notre vie, arrête d'être importante. Ce qui est important alors, c'est seulement les vices de l'alcool. L'alcoolisme a trois faces parfaitement définies. Il y a premièrement l'initiation. Beaucoup d'entre nous commençons à boire de l'alcool durant notre adolescence pour montrer que nous sommes des hommes ou des femmes, que nous sommes viriles et fortes. Ils boivent pour être accepté par des amis, pour être intégré dans les groupes, et les filles font la même chose. Les adolescentes ont une fausse conception de l'amitié, de la maturité et de la virilité. Nous avons un faux concept de ce qu'est savoir de la classe. Nous croyons que fumer, boire, avoir une sexualité très jeune, forniquer, semi-brère, c'est savoir de la classe. Cela va nous donner de la valeur et du courage. Que cela va donner à la femme de la classe et être ainsi intégrée, acceptée. Mais tout cela n'est qu'une dégénérescence. Agir de cette façon, c'est être dégénéré. Notre société va de mal en pire. Nos grands-parents avaient des défauts psychologiques, bien sûr, certaines carences et certains vices, et nos parents ne sont pas meilleurs qu'eux. Ils sont peut-être même pires qu'eux. Avec plus de vices et d'aberrations, plus de défauts, est-il existe maintenant plus d'homicides et de dégénérescence et nous sommes encore pires. Et nous avons tous ces vices de l'alcool en nous. Il y a une légende arabe très intéressante qui raconte qu'un homme qui errait dans les forêts se retrouva soudain face à face avec un démon terrible qui lui dit « Je vais te tuer. Je suis un démon et je vais te tuer. Mais si tu ne veux pas que je te tue, tu dois tuer ton père. Et si tu ne veux pas tuer ton père, tu dois alors violer ta sœur. Et si tu ne veux ni tuer ton père ni violer ta sœur, tu as un dernier choix. Tu dois te soulever. Si tu ne veux pas que je te tue, tu dois choisir entre ces trois solutions. L'homme, ne voulant pas tuer son père ni violer sa sœur, décida de s'enivrer complètement. Et alors, il fut complètement ivré. Dans cet état, il tua son père et viola sa sœur. Cette légende nous montre très bien ce que nous fait faire l'alcool. Nous avons un faux concept de la virilité, de ce qu'est avoir soi-disant de la classe et d'être accepté par les autres. Nous commençons presque tous notre vie à l'alcool pendant l'adolescence. Nous buvons une tente avec des amis. Nous buvons à cause d'un grand amertume. Nous buvons à cause d'une déception amoureuse. Nous tombons dans les rives de l'alcool, même si nous certifions que cela ne nous arrivera jamais. Nous disons que nous buvons pour nous sentir bien, pour nous sentir à l'aise et heureux. Que nous pouvons nous contrôler, contrôler notre alcoolisme. C'est ce que nous disons toujours. Mais l'alcool est un démon, ou plutôt un ensemble de diables, un groupe de démons qui vient dans notre monde intérieur et que nous fortifions peu à peu. Ils sont là depuis de nombreuses existences, en attente. Et si nous ne sommes pas alertes comme en temps de guerre, ils vont nous engloutir et nous détruire. Lorsque nous sombrons dans l'alcoolisme, nous ne respectons plus rien. Il y a des enfants qui s'alcoolisent. Ils s'arrêtent de ce qu'ils voient dans leur foyer. Le père boit et la mère boit. Alors, tel père, tel fils. Les enfants boivent. Si nous buvons devant nos enfants, c'est l'exemple que nous allons leur donner. C'est ce qu'ils vont apprendre. Mon père boit ou ma mère boit, alors c'est une chose bonne. C'est correct. Et l'enfant emprunte le chemin de l'alcool lui aussi. Il n'y a pas d'âge pour commencer. En tant qu'adulte, nous buvons à cause de la mort de notre cher, ou à cause d'une déception, à cause d'un divorce, ou nous avons perdu notre travail, ce qui est courant à notre époque, et nous nous réconfortons dans l'alcool. Nous avons tous ces vices de l'alcool en nous, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous faits pareil. Il est indispensable que nous nous auto-observions, que nous sachions qui nous sommes vraiment et nous voir tels que nous sommes vraiment. Quelquefois, nous buvons peu, mais très souvent. C'est comme si on avalait des minuscules morceaux de beurre tous les jours, un petit peu. Au fil du temps, cela va nous faire du mal. Cela va endommager notre organisme. Beaucoup d'entre nous avons sévi de l'alcool et nous, dans un état de latente, bien caché, sans que nous nous étions, sans que nous le sachions. Bon, ça va. Un petit verre d'alcool de temps en temps, ce n'est pas bien grave. C'est très bon. Mais si ces petits verres de vin délicieux et très fréquents, et si nous les faisons souvent, nous devons faire attention, chers amis. Peut-être nous sommes en train de nous auto-tromper. Un petit verre de temps en temps n'est pas mauvais. Mais tous les jours, chaque week-end, attention. Un petit jus d'orange avec un peu de rhum ou un petit pastis le matin, tous les jours. C'est comme cela que le monde de l'alcool est alimenté, est fortifié. Mais le faire tous les jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, durant longtemps, c'est autre chose. Les démons d'alcool s'incrustent comme des petits morceaux de beurre dans notre organisme, peu à peu. Et il est probable qu'un jour, au moindre coupe dure, à la moindre déception, à la moindre amertume, ou à la mort de notre cher, nous tomberons finalement dans les rives de ce démon alcool, car nous l'avons alimenté tous les jours et durant longtemps. Il s'est bien fortifié, tellement fortifié qu'il domine notre mental et il domine notre cœur. Au début, lorsque nous commençons à boire, notre organisme, qui est très intelligent, rejette cette boisson. Et c'est logique. Notre organisme a rejeté de l'alcool car ce n'est pas quelque chose de naturel pour lui. Bon, peut-être qu'un 31 décembre ou à une date bien spéciale pour nous, on boit un petit verre de cidre ou une autre chose de semblable. Ce n'est pas bien grave. Cela ne va pas nous faire du mal. Mais attention, seulement un petit verre contrôlé, consciente. Il y a des personnes qui savent très bien faire pour ne pas trop boire durant une fête et qui sont très diplomates et bien très bien habiles. Il se balade toute la soirée avec un seul verre qu'on leur a offert au début et font semblant de boire et passent une très bonne soirée sans s'alcooliser. Mais lorsque l'on boit trop, il est évident que notre organisme rejette cette boisson. Il veut expulser cette chose qui lui fait du mal. C'est pour cela qu'arrivent les vomissements, les malaises, les maux d'estomac et ce qu'on appelle généralement le lendemain matin, la gueule de bois. Ce sont des réactions naturelles de l'organisme devant lesquelles lorsque nous boivons quelque chose qui sait être nocif pour lui et qui va lui faire beaucoup de mal. Mais nous avons en nous une volonté très maligne. Vous voyez les termes que nous utilisons. Démon, volonté maligne. On pense que les diables, les malins, la sorcellerie, les sorcières, les attaques de magie noire sont des choses qui sont loin de nous. Et nous imaginons une vieille dame toute en noir avec un chapeau pointu et une rose verte sur les nez à côté d'un chaudron avec des mines avec des grands ongles qui jette de la poudre et des guenilles dedans ou qui plante des aiguilles dans une poupée de chiffon en ricanant. Oui, c'est ainsi que nous imaginons les travaux des magies noires, n'est-ce pas? Ou les travaux de sorcellerie. Mais en réalité, ce n'est pas cela du tout. Ce n'est pas cela la réalité. En vérité, la magie noire se trouve partout de nos jours. À la télévision, dans la culture, ou dans ce que nous appelons, entre guillemets, la culture. Elle se trouve dans la science, dans le cinéma, dans l'Internet, dans les médias et dans les réseaux sociaux. Ouh là là, certainement, chers amis, et beaucoup. Est-ce que vous pensez réellement que la bombe atomique n'est pas un acte de magie noire? La magie noire n'est pas de faire du mal à l'humanité, faire du mal à nos semblables. La bombe atomique n'est-elle pas le pire acte de magie noire? Lorsque des enfants, des femmes et des vieillards meurent, lorsque les plantes et les arbres meurent, lorsque les fleuves, les océans et les mers sont entièrement contaminés, n'est-ce pas des actes de la magie noire? Et la personne qui boit n'est-elle pas en rapport avec le mal? Nous imposons ces mal démoniaques que nous avons créés à notre corps. Nous imposons ces mal ténébreux et égotiques dans notre corps, contre notre corps. Nous arrivons à dominer toutes les réactions de notre organisme. Nous les vainquons. Et nous entrons dans la deuxième étape de l'alcoolisme. La deuxième étape de l'alcoolisme, c'est l'intoxication. C'est quand nous ne nous sentons pas bien lorsque nous ne buvons pas de l'alcool. On a l'impression que tout va bien, mais on est devenu alcoolique. On ne peut plus s'en penser. Notre organisme est intoxiqué et ne peut plus se passer de cet alcool. Nous ne nous sentons pas bien de tout. Si nous ne buvons pas, si nous sommes chirurgiens, nous ne pouvons plus opérer sans prendre un verre d'alcool avant d'entrer en salle d'opération. Notre corps est intoxiqué et dépendant de l'alcool. Nous avons violenté notre corps avec notre volonté maligne et notre corps en a maintenant besoin. Il est habitué à lui. Et ces chirurgiens, s'ils ne voient pas avant d'opérer, n'est pas capable d'opérer bien. C'est la même chose pour les commerçants, pour l'ouvrière. S'ils ne prennent pas leur petit verre d'alcool avant, les affaires ne vont pas réussir ou le travail ne va pas se faire correctement si nous ne prenons pas notre petite bière avant d'aller à l'usine. Alors, nous ne nous sentons pas bien. Nous en avons besoin. C'est l'intoxication. Quand une tragédie morale survient, qui est en fait le détonateur de l'acte de s'enivrer, nous bobons et nous bobons pour oublier, pour nous échapper de cette souffrance que nous ressentons. Mais nous faisons aussi souffrir les autres. Nous ne nous rendons pas compte que si nous sommes en train de détruire notre corps, nous détruisons aussi la vie de nos parents, de nos enfants, de nos conjoints. Nous préparons un peu notre futur dans une prochaine existence où nous nous préparons à une vieillesse terrible, malheureuse, douloureuse. Tu veux connaître ton futur? Dites-moi. Bien, c'est en demande des anciennes traditions. Eh bien, la réponse était « Eh bien, connais ton présent. » Ce que nous faisons aujourd'hui dans notre présent sera notre futur. Nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui ce que nous allons récolter plus tard. Cette tragédie morale que nous vivons alimente cette incitation à boire. Les personnes qui boivent, mais qui mangent, mettent un peu plus de temps à mourir, parce que les tubes digestifs font que l'alcool n'impacte pas directement l'organisme. Et nous avons vu que ceux qui mangent lorsqu'ils boivent vivent un peu plus longtemps, mais ceux qui ne mangent pas lorsqu'ils boivent meurent beaucoup plus rapidement, et cela nous mène à la troisième étape de l'alcoolisme. Nous avons dit que la première étape de l'alcoolisme était l'initiation. La deuxième étape de l'alcoolisme était l'intoxication. Et la troisième, c'est la mort. Oui, c'est vers la mort que l'alcoolisme nous mène. La mort, lorsque l'on est alcoolique, est terrible. Terrible. Il y a l'ulcère hépatique, la cirrhose du foie, ou les diarrhées sanguinolentes, et bien sûr, le délirium tremens. Toutes ces maladies sont les conséquences de l'alcool, même si les alcooliques ont toujours affirmé qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils pouvaient se contrôler, mais ils finissent toujours ainsi. Ils peuvent aussi mourir parce qu'ils ont traversé la rue en étant ivres et se sont fait écraser, ou bien provoquer des accidents très graves parce qu'ils ont conduit en état d'ivresse. L'alcool est un démon que nous avons nous-mêmes créé en nous. La psychologie de l'alcoolique est vraiment lamentable. Nous dépensons tout notre argent dans l'alcool, tout notre budget. Nous gaspillons toutes nos économies et lorsque nous n'avons plus d'argent, nous devenons des mendiants de l'alcool. Rien n'est plus important pour nous que l'alcool, ni les choses de l'âme, ni les choses de l'esprit, ni les responsabilités, ni l'honnêteté, ni la morale, ni l'éthique. Rien ne nous importe plus. En même temps que nous nous sentons supérieurs aux autres. Je ne suis pas comme tous les gens complètement débiles, nous pensons. Je suis supérieur à eux. Ces personnes qui se promènent avec leur famille, ils sont ridicules. Non. Je ne suis pas comme eux. Je suis supérieur à eux. Je suis viril et je rentre chez moi quand je veux. Nous perdons tout intérêt pour ces belles vertus. Elles disparaissent. L'alcool affecte notre mental, notre cœur. Nous ne pouvons pas nous retenir. L'alcool nous domine dans tous les aspects moraux, émotionnels, mentaux. Les visions lors d'un délirium tremens ou avec les drogues, qu'elles soient chimiques ou naturelles, comme la marijuana, le peyote, ou toutes les plantes et les drogues qui existent dans la société, de nous dire affectent notre fantaisie. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est que la prise de drogues et d'alcool bon activer ésotériquement les chakras, mais de façon négative. En effet, les chakras peuvent s'activer positivement ou négativement. Et dans le cas des prix de drogue ou de l'alcool, ils les activent de façon négative. Les chakras s'active positivement. Comment? Avec la méditation, la vocalisation, la concentration, avec la désintégration des défauts, la prière, mais il s'active négativement avec les drogues et avec l'alcool. Les visions de délirium tremens des ivrognes sont vraiment réelles. Ce qu'ils voient dans leur vision existe réellement. Nous nous rendons compte de ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous voulons dire, c'est qu'avec l'alcool, nous éveillons une clairvoyance négative, infraconsciente, inconsciente et subconsciente. Avec ces facultés négatives, nous descendons dans les régions inférieures de la nature. Ce sont des démons que nous voyons et ils existent vraiment dans les infradimensions de la nature. Ils existent vraiment. Oui, ces choses horribles que nous voyons dans les délirium tremens existent bien dans les infradimensions de la nature. C'est dans ces régions que nous mène l'alcool. Et même s'il nous fait du mal, nous voulons toujours le justifier. Si vous voulez continuer à boire, eh bien, continuez. Ici, dans l'Arnos, nous n'allons pas vous interdire d'assister aux conférences ni d'étudier l'Arnos. Nous n'allons pas vous rejeter boire ou fumer de la marijuana. C'est votre décision. Continuez à boire et à fumer. C'est vous qui décidez. Nous n'allons pas vous rejeter. Jamais. Pourquoi voulez-vous que nous le justifions réellement? Oui, nous savons que cela affecte la fantaisie, que cela augmente le pouvoir de l'organe conductivador et fait renaître des agrégats psychologiques. Si vous voulez vous justifier, justifiez-vous. Ces comportements montrent qu'ils se sentent bien supérieurs aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Les visions que nous voyons avec les drogues ou avec l'alcool existent réellement dans les infradimensions de la nature. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les livres des Révélations, on parle de la grande prostitute, de cette bête dont le numéro est 666, et qui surgit de l'abîme, qui surgit du puits de l'abîme, et de ce puits de l'abîme sortent des vapeurs. Et ces vapeurs sont des vapeurs de l'alcool. Notre société, telle une roue mécanique, tourne et tourne à cause de l'alcool. Elle est pourrie. Pourrie de tous les côtés. Et partout, la prise de l'alcool est justifiée. Il faut vraiment être radical avec l'alcool. Il ne faut pas négocier avec lui, ni ne faire aucun arrangement, parce qu'il va toujours nous entraîner dans l'abîme. Il est impossible de faire des affaires avec les démons. C'est comme si on faisait des actes avec le diable, des pactes avec le diable. Voilà ce que sont les affaires avec l'alcool. Il y a des personnes qui disent avoir beaucoup de volonté, mais qui, tous les jours, prennent de l'alcool en disant que c'est bon pour je ne sais pas, la grippe, que c'est bon pour la digestion, que c'est bon pour beaucoup de choses. C'est une autre justification de ce qu'ils voient. Ce n'est pas très agréable à entendre, mais c'est ainsi. Nous, les Mexicains, sommes, hélas, un peuple qui voit. Nous nous enivrons à la moindre occasion, avec du pulque ou avec la boisson du maguey, ici au Mexique. Le maguey sert à soigner beaucoup de choses lorsqu'il n'est pas fermenté. Il est vraiment merveilleux. Mais lorsqu'il est fermenté, il n'est pas aussi merveilleux. C'est avec cette boisson fermentée que nous nous enivrons, que nous nous saoulons, et beaucoup déclarent que c'est pour la digestion, que c'est pour les mal de tête, etc. Et tous les jours, nous prenons notre petit verre d'alcool. C'est comme si nous laissons entrer dans notre organisme, dans notre univers intérieur, des atomes de l'ennemi secret, qui va s'incruster, peu à peu, dans notre corps. Notre organisme est un univers miniature. Il y a, à l'intérieur, des puissances du bien et des puissances du mal. Il y a des atomes défenseurs dans notre organisme, qui sont intelligents et bien vivants, mais il y a aussi des atomes de l'ennemi secret qui cherchent à nous rendre malades, qui nous mènent dans la luxure, dans les états malsains, des atomes qui nous mènent à la négligence et à la paresse, des atomes qui ne puissent être malsains ou à ne plus être attentifs. Nous sommes un véritable univers miniature. Notre foi est un organe merveilleux. Il possède des atomes ouvriers qui travaillent dur pour assumer toutes les fonctions du foie. Il y a là de l'intelligence et de la vie. Mais il y a aussi des atomes de l'ennemi secret. Et lorsque l'on boit, lorsque l'on prend de l'alcool, même si l'on dit qu'on le fait sous contrôle, on fait entrer en use des atomes de l'ennemi secret qui s'alimentent jour après jour, peu à peu, et qui attendent patiemment que nous vivions une tragédie, un drame, la perte d'un être cher, un divorce, la perte d'un travail, ou n'importe quoi, quoi d'autre, pour surgir et nous dominer. Ils sont très patients. Ils sont là dans notre organisme. Nous avons nous-mêmes parmi qu'ils entrent. Nous les avons absorbés tous les jours. On ne peut pas faire d'affaires avec les démons d'alcool. On ne peut pas négocier. C'est pour cela que nous devons être très vigilants et très attentifs. Il est vraiment urgent que nous comprenions que ce n'est pas avec des simples lois que nous allons pouvoir combattre l'alcool ou les drogues. Ce n'est pas en les interdisant ni en les justifiant comme on les fait maintenant que l'on va résoudre ces problèmes. Et si nous acceptons la légalisation des drogues, comme veut le faire certains pays, il va y avoir beaucoup de problèmes. Vous voyez ce qu'il se passe avec l'alcool. Il est devenu légal et nous voyons sans arrêt des accidents dus à l'absorption de l'alcool, des homicides, des violences, des crimes. Alors, si le drogue devient légal, cela va être exactement pareil qu'avec l'alcool. On n'arrange rien en interdisant ou en permettant les drogues ou l'alcool. Ce n'est pas ainsi que l'on arrange les choses. Il faut de la compréhension. Il faut connaître et savoir tout le mal que l'alcool nous fait. Il faut des professeurs, dans les écoles, des professeurs anti-alcool. Ces matières à étudier. Il faut urgentement créer une nouvelle profession. Il faut qu'il y ait des spécialistes anti-alcool qui nous apprennent depuis les bancs de l'école et même depuis les jardins d'enfants, qui enseignent tous les dangers de l'alcool. Il faut créer cette matière nouvelle dans les primaires, dans les secondaires, dans les lycées, dans les universités, dans les ashrams, dans les cours de religion. Il faut l'enseigner partout. Il faut que l'on comprenne tout le mal que nous fait l'alcool. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons lutter contre ces démons et nous éviter de tomber dans ces vices horribles de l'alcool qui nous mène et nous maintient dans l'abîme. C'est des connaissances et des compréhensions dont nous avons besoin. Créer des spécialistes anti-alcool compétents et d'en faire une matière à part entière comme la chimie, comme la physique, la biologie ou les mathématiques, pour montrer et expliquer les effets de l'alcool et ses conséquences. Que ces spécialistes soient payés par le gouvernement, comme le sont les autres professeurs, nous avons vraiment besoin de cela. Ce qui pourrait aussi aider, c'est de faire des campagnes objectives contre l'alcool à la télévision ou sur des grandes écoutées, et non pas à 1 h du matin, afin que cela soit vu par beaucoup de personnes. Il faut aussi faire des publicités anti-alcool en même temps que les publicités pour l'alcool. Le système audiovisuel est excellent. La technologie que nous avons de nos jours est merveilleuse. Nous devons l'utiliser pour les biens. Nous devons faire de même avec Internet, avec des vidéos. Nous pourrions utiliser tout cela pour montrer aux enfants, aux adolescentes, aux adultes, ou vieille personne, tous les mal que nous cause l'alcool et toutes les conséquences désastreuses vers lesquelles il nous mène. Il ne faut pas oublier, chers amis, sur toute l'importance des noyaux familiales, du foyer, de la famille. Mes très chers amis, car nous ne pourrons jamais nier que c'est dans les noyaux familiales que se trouve la principale base de l'éducation. La place de l'exemple est très importante. Si nous demandons à nos enfants de ne pas boire avant qu'ils ne soient adultes, et si nous buvons de l'alcool devant eux, si nous nous enivrons devant eux, si nous avons toujours un verre de vin à la main devant eux, eh bien, c'est l'exemple qu'ils suivront. C'est ce qu'ils vont apprendre. Le foyer familial est la base de notre société. Par contre, il est de nos jours en train de se désintégrer. Nous devons savoir et comprendre que le foyer est un temple et il est la base, la socle de l'humanité. La famille est la base de la création, de l'éducation, et que c'est par l'exemple que les enfants apprennent. Si nous apprenons à nous contrôler, si nous apprenons à ne pas boire, si nous apprenons à faire des fêtes sans alcool, fêter Noël à la fin d'année sans alcool, si nous apprenons à avoir des réunions de famille sans alcool, alors c'est cela que vont apprendre nos enfants. Le noyau familial est la base. Les pères et la mère sont les axes du foyer. Les adolescents sont les axes du foyer. Un grand-père est l'axe du foyer. Nous devons savoir que c'est en donnant l'exemple que nos enfants apprendront. Nous disons toujours que tout ce qui nous arrive est la faute du gouvernement, la faute des professeurs, etc. Mais le principal se trouve dans la famille, dans les foyers familiales. Dans la Lémurie et en Atlantide, l'éducation principale était faite dans les foyers, dans la famille. On n'envoya pas les enfants de 3 ou 4 ans à l'école, comme de nos jours. Non. Le foyer parental était la base, le socle de l'éducation. Et c'est pour cette raison que la Lémurie et l'Atlantide, durant leur âge d'or, ont été extraordinaires, florissantes, merveilleuses, parce que les enfants apprenaient toutes les bases dans les noyaux familiales. Maintenant, essayons de sauver ce qui peut être sauvé et surtout éduquer les gens sur les méfaits de l'alcool avec l'exemple. Sur Internet, à la télévision, avec des vidéos, en faisant attention aux choses que regardent nos enfants et nos adolescents. Faire attention à ce qu'ils font sur le net ou dans leurs jeux vidéo. Il faut que les parents fassent vraiment attention à tout cela et surveillent tout. Il faudrait aussi que les jeunes soient conscients de ce qu'ils laissent entrer dans son mental et dans son cœur et qu'ils sachent rejeter tout ce qui lui fait du mal. Il existe des aliments pour le mental et pour le cœur et nous devons faire attention à ces aliments. Le foyer parental est fondamental pour cela, mes très chers amis. Nous pouvons dire que la méditation et l'ivresse sont deux pôles complètement opposés. Oui, l'ivresse se trouve du côté négatif et la méditation du côté positif. L'ivresse, les drogues, même si elles sont naturelles, et l'alcool se trouve du côté négatif. L'arnose est contre la marijuana. N'est pas du tout pour non plus pour le peyote, ni pour aucune herbe qui existe dans le monde, même si les anciens chamans les utilisaient. Non, nous ne sommes pas d'accord avec tout cela, chers amis. Et si certains, ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, tant pis. Car nous devons dire que l'agnose a vérifié que lorsque nous utilisons ces plantes, comme elles sont aujourd'hui, l'unique chose que nous faisons, c'est de fortifier les conséquences terribles de l'organe conductivateur et de submerger dans les infradimensions de la nature. Et puis, si vous prenez ces plantes, ne venez pas pleurer ensuite en disant « Ah, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon épouse, mon famille, j'ai perdu mon fils, tout le monde m'a abandonné. » Et comment pensiez-vous que vous alliez les garder si tous les jours vous faisiez vos petits voyages dans votre coin? Que voulez-vous qu'on y fasse? Que voulez-vous qu'on y fasse? Vous avez un fils qui est paralysé. Vous pouviez, vous vous droguiez. Il allait avec ces fameux chamans dans les voyages spirituels, dans ces tourismes ésotériques, qui sont très à la mode de nos jours avec les initiations chamaniques par des drogues ou on ne sait quoi. Non, mes amis, tout cela est complètement absurde. C'est de l'antithèse de la spiritualité. La méditation nous submerge dans les supradimensions de la nature et nous n'avons aucunement besoin de plantes ni d'alcool pour cela. Et l'ivresse nous mène au contraire dans les infradimensions de la nature. La méditation active les chakras de façon positive et l'ivresse de façon négative. La méditation détruit l'ego. L'ivresse fortifie l'ego et fait revivre les égos que nous avions peut-être éliminés. C'est donc du sentitesse. Vous voyez ce que nous voulons dire par là. La solution pour vaincre l'alcool, pour vaincre l'alcoolisme, est la méditation. C'est l'opposite. Plus nous irons vers les pôles opposés, plus nous nous émanciperons et plus nous nous libérerons de ces chaînes que nous traînons avec nous, avec l'alcool et les drogues. La méditation nous fait expérimenter la réalité. Les drogues et l'alcool nous font descendre dans les infradimensions, dans la souffrance, la maladie et le délit. Ce sont deux entités qui ne pourront jamais se rejoindre, même si nous voulons essayer de les réunir. C'est impossible, parce que ce sont deux pôles qui sont opposés l'un à l'autre. Vous voulez méditer avec des drogues? Non, mes amis, c'est impossible. Et si vous le faites, c'est que vous êtes complètement perdu et sur le chemin de l'erreur. Mais chacun est l'architecte de son propre destin. Chacun choisit son chemin. Nous devons suivre le chemin de la vérité. Ce chemin qu'ont suivi le maître Jésus de Nazareth, Quetzalcoatl et Hermès Trismégiste. Lorsque l'on est alcoolique, une des choses contre laquelle nous devons lutter sont des micro-organismes ultra-sensibles qui se créent avec l'ivresse. Quand Louis Pasteur disait qu'il fallait stériliser les instruments chirurgiques et très bien se laver les mains, tout le monde s'est moqué de lui. Mais lorsque l'on a découvert par la suite qu'il existait bien des micro-organismes imperceptibles à l'œil nu et qu'on ne les voyait qu'avec des microscopes, on arrêta de se moquer de Louis Pasteur. Mais nous devons également dire que non seulement il existe des bactéries et des virus dans notre monde physique, mais qu'il existe aussi des bactéries et des virus dans la quatrième dimension et dans la cinquième dimension. Nous pouvons les appeler des micro-organismes ultra-sensibles. Ultra voulant dire au-delà. C'est-à-dire au-delà des sens physiques, mais qui existent vraiment. Peut-être qu'un jour, la physique à un moment donné, découvrira des lunettes spéciales qui permettront de voir la quatrième dimension et découvrir alors que des maladies sont causées par des micro-organismes ultra-sensibles qui sont là. Paracelse, grand maître illuminé, qui était médecin, les appelait des larves, mais comme ce terme gêne beaucoup de monde, nous les appellerons des micro-organismes ultra-sensibles et tout le monde les sera content. Il s'agit bien de ces mêmes larves, fantômes, Dragon, Basiliscus, etc., de maître Paracelse. Ces micro-organismes ultra-sensibles sont créés par nos vices. Par exemple, lorsque nous sommes très égoïstes, nous créons en nous beaucoup de micro-organismes et ils laissent les corps vitaux. Ils vont jusqu'au corps astral et s'alimentent de notre vitalité et ils nous incitent à reproduire ce avec quoi ils se sont créés. Ce qui veut dire que lorsque nous nous enivrons, nous créons des larves, des micro-organismes ultra-sensibles, alcooliques, qui nous incitent à boire encore et encore pour pouvoir s'alimenter. Nous pouvons nous aider à nous nettoyer de ces larves en prenant des vins avec des plantes aromatiques comme les menthes ou la camomille, par exemple. Nous faisons chauffer de l'eau dans une casserole avec la plante qu'on peut faire un grand thé. Et nous nous baignons avec, une fois qu'il a la température ambiante. Cela va nous aider à nettoyer notre corps de ces micro-organismes ultra-sensibles. Brûler des feuilles de genièvre. Genièvre, un charbon, élimine aussi ses larves. Nous pouvons également brûler du frailejón, qui est une espèce végétale comme le bambou nan. On peut aussi utiliser un tout petit peu de soufre. La quantité qui nous pouvons avoir ici la mettre sur la plante des pieds entre les chaussures et la chaussette ou en brûler un tout petit. Mais vraiment un tout petit peu, car c'est une odeur très désagréable et très forte. Une toute petite pincée suffira, d'accord? Juste une toute petite quantité. Les éléments qui se trouvent dans le soufre brûlent toutes ces larves, ces micro-organismes ultra-sensibles, et c'est une idée pour nous. Il ne faut pas non plus oublier la méditation qui nous aidera beaucoup. Aussi, mais ces aides ne pourront pas éliminer totalement l'alcoolisme. Elles pourront nous aider à avoir un peu plus de volonté pour les combattre, pour combattre ces vices, cette maladie, ou comme vous voudrez l'appeler. Mais il faut se rappeler que ce sont des égaux qui sont responsables de cette situation. Mais il est évident que la méditation est fondamentale. Le travail avec l'osmothérapie nous aidera aussi énormément. Thérapie signifie un système pour soigner, bien sûr. Et osmo vient du parfum. Le docteur Arnold Krumheller, médecin de l'armée mexicaine qui était d'origine allemande, était un véritable maître. Il était allemand, mais il est venu au Mexique car il disait que pendant que d'autres allaient en Inde, lui venait au Mexique parce que c'était là où se trouvait aussi la véritable sagesse. Ce médecin, ce grand maître, disait que nous pouvions aider les personnes de notre famille qui avaient ces vices de l'alcool en utilisant l'osmothérapie. Si une personne de notre famille avait ces vices, il fallait tout d'abord beaucoup l'aimer et d'avoir beaucoup de patience. Ce qui n'est pas facile du tout, mais ce n'est pas impossible. Il faut aussi beaucoup de travail car il n'existe pas de baguette magique pour guérir de l'alcool. Il faut que cette personne médite beaucoup pour détruire toutes ses larves. Il faut changer aussi les milieux ambiants, les soi-disant amis. Et changer de travail si celui-ci nous incite à boire, si c'est possible bien sûr. La personne qui boit et qui veut arrêter doit prendre des décisions radicales parce que sinon, l'alcool va l'amener à la destruction de son foyer et de son corps et l'amener finalement à la mort. Nous devons beaucoup aimer cet être cher si nous voulons l'aider. Nous avons tous ces moyens de l'alcool en nous, même si nous n'avons jamais bu de l'alcool dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant comme un soldat en temps de guerre. Et si nous le découvrons, même si nous ne buvons pas, il faut travailler sur ce mois pendant notre méditation. Ce n'est que comme cela que nous éviterons de tomber dans l'alcoolisme et nous donnerons ainsi l'exemple à nos enfants et nous aiderons nos parents à aller de l'avant. Que pouvons-nous faire donc pour aider à notre cher qui est alcoolique? Eh bien, durant la nuit, lorsqu'il est en train de dormir, nous nous placerons à son chevet avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et il en faudra beaucoup pour agir ainsi, car nous devrons le faire durant des jours, des mois, et peut-être des années. Nous allons donc nous approcher de lui durant son sommeil, et nous lui ferons sentir un parfum de roses naturelles. Cette odeur va arriver dans son subconscient, et avec beaucoup de patience et d'amour, nous lui prendrons la main droite et lui expliquer toutes les conséquences de l'alcoolisme, tout le mal qui est fait à son organisme, tout le mal qui est fait à sa famille. Lui expliquer les trois étapes de l'alcoolisme, lui expliquer tout ce qui concerne l'alcool avec beaucoup de patience et d'amour. Chaque fois, plus profondément, avec d'amour, beaucoup d'amour. Expliquer notre préoccupation, expliquer comment l'organisme tombe malade. Nos paroles arriveront dans son subconscient peu à peu et graduellement il pourra se sortir des griffes de ce vice qu'est l'alcool. Nous pouvons agir de la même façon pour n'importe quelle drogue. Il faut un travail complet. Il ne faut pas boire, il ne faut pas faire une seule chose. Nous devons boire tous les aspects de l'alcoolisme, de la drogue, étudier. Nous devons découvrir la racine de ces mal en nous. Nous devons découvrir la cause de nos tragédies, de nos conflits, et comprendre que nous ne sommes pas les seuls à avoir ces défauts, mais que toute l'humanité les possède. Nous devons sortir de là, absolument. Si nous perdons à notre cher, il faut se dire que la mort est quelque chose de normal, de naturel. Et comme le disait le maître Bouddha, nous naissons tous, nous tombons malades, nous grandissons et nous vieillissons et nous mourrons tous un jour. C'est normal. Il faut comprendre cela pour que cette part ne nous nuise pas, qu'elle ne nous entraîne pas dans les rives de l'alcool et détruise notre vie comme cela détruit la société. Voilà, mes amis, nous avons terminé cette conférence sur l'alcoolisme et nous allons vous recommander le livre de Maître Samael Ambeor, L'introduction à l'art neuf, chapitre 8. Pour que vous étudiez parfaitement, parce qu'il est très important que nous connaissions et comprenions à fond ces sujets pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Chers amis, merci beaucoup. Ayez-vous un très bon week-end. À bientôt.